Le modèle danois, là c'est un sujet touchy. Oui, moi je suis pour une restriction, un contrôle de l'immigration, et ça, ça me paraît pas du tout hors sujet.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Et aujourd'hui, on va parler d'un pays que Cyril, notre rédacteur en chef, connaît bien. Un pays qu'il confond toujours, c'est vrai, avec la Suède, la Finlande et la Norvège, contrées enneigées où de grands blonds, non pas possible, boivent de l'alcool à 90 dans les crânes de leurs ennemis et qu'il regroupe sous l'expression parapluie de pays où il meule grave, tout en haut, au nord du mur. Voilà. D'où son 4 en géographie au bac. Le pays au nord du mur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Danemark. Un pays qu'on voit souvent comme une petite démocratie idéale où tout fonctionne bien, avec un état-providence merveilleux et des cyclistes qui respectent le code de la route. Mais aujourd'hui, on va découvrir une autre facette de ce qu'on appelle le modèle danois, son rapport à l'immigration. Et là, on peut couper la musique de Disney parce que pour les étrangers, le Danemark, c'est pas la maison des poupées, c'est plutôt restez chez vous, il n'y a rien à voir. J'en étais sûr, on ne veut pas faire confiance à des gens qui sautent à poil dans l'eau glacée en sortant du sauna, s'exclame Cyril, heureux de voir qu'il avait percé à jour le mythe des gentils Danois. Et en effet, depuis une vingtaine d'années en matière d'immigration, le Danemark mène une politique qui serait susceptible de donner une demi-molle à Bruno Retailleau, voire à Jordan Bardella. Limitation extrême du regroupement familial, interdiction d'immigrer, si c'est pour s'installer dans des quartiers où il y a déjà trop, entre guillemets évidemment, de personnes d'origine étrangère, le Danemark a largement fermé ses frontières, et le plus fou, c'est que c'est même pas la droite qui l'a fait, mais la gauche. Alors, à quoi ressemble ce modèle danois? Cette émission va-t-elle donner des idées à Olivier Faure? Et le Danemark, c'est à gauche ou à droite de la Suède sur la carte? Bon, le temps que Cyril trouve, c'est parti.
Au nord.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Yvan Gasteau.
Bonjour.
Bonjour Yvan, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, chercheur à l'unité de recherche Migration et Société au sein de la Maison des Sciences de l'Homme de Nice et du Sud-Est, spécialiste de l'histoire de l'immigration. Vous avez coécrit en janvier dernier « France, terre d'immigration, 13 siècles de présence du Maghreb, de l'Égypte et de l'Orient ». C'est aux éditions Philippe Ray. Et vous êtes en duplex aujourd'hui avec nous des studios de nos confrères d'ICI Azur à Nice. Vous allez nous expliquer ce modèle danois entre guillemets et pourquoi il n'inspire pas que les partis de droite et d'extrême droite en Europe. Juste le temps de vous présenter ma fine équipe, dont la connaissance des pays scandinaves se résume à ce qu'ils en ont lu dans Astérix contre les Vikings. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour à tous.
Très bon numéro
très,
d'ailleurs.
Très bel album.
Ah, j'adore.
Un des meilleurs. Manon, vous avez maintes fois sillonné la planète, de Séoul à Mexico, en passant par New York. Ouais. Jamais vous n'avez songé à découvrir le Danemark?
Pas encore, mais pourrais faire un petit combo des pays du Nord.
Un petit combo.
Bah, très bien.
Je vous conseille d'avoir beaucoup d'argent avec vous.
Ah oui,
non, ça coûte une blinde.
Oui. C'est
mais
pour
par
ça
contre,
que j'y vais
pas. La carte bleue partout.
Ah oui, c'est
il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Toutes les cartes bleues.
N'est-ce pas, Mathieu?
Toutes.
Surtout la vôtre.
Manon, dans votre
très
pièce,
noir.
Dans votre pièce jointe, je vous en prie. Dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une aide française instrumentalisée par l'extrême droite depuis des années qui rêve de s'en débarrasser. Selon ses élus, cette aide serait l'une des causes de l'immigration en France.
Face à vous, Manon, j'ai longtemps fait partie de ceux qui s'opposaient à la théorie selon laquelle il était le pire d'entre
c'est
nous.
C'est pas vrai.
Ah, si. Je m'acharnais à le défendre, à voir le bien en lui, même si c'était d'une lueur infime, difficile à voir à l'œil nu. Et puis, l'anecdote du Poitiers-Paris est arrivée à mes oreilles. On m'a raconté comment, dans le wagon-bar, avisant un homme qui, je le cite, « prenait toute la place alors qu'il ne consommait même pas », Quentin est allé dénoncer cette personne au barista afin qu'il le dégage. Et comment, le barista refusant de prendre ses responsabilités, Quentin est allé lui-même expliquer à l'individu que s'il ne prenait pas au moins un paquet de Mikado, il n'avait rien à faire ici.
Non, attendez,
tout est vrai dans cette anecdote, c'est, vraiment, défendez-vous.
C'est à peu près vrai. Mais dans ce wagon-bar, déjà il y avait Manon avec moi.
Oui,
on est arrivé, il y a un mec qui était étalé sur toute une table.
C'est vrai, c'est abusé.
J'ai dit au barista, je m'en occupe, tu t'en occupes. Et voilà.
Mais tu t'en occupes.
Le gars, c'est la police du TGV. Quoi.
Et je suis arrivé, le mec, il m'a dit, ah bah effectivement, je consomme pas, mais je vais pas bouger, mais vous pouvez venir. Il a eu toute l'équipe de Zoom Zoom Zen.
Il est sur nos selfies du coup, parce qu'on a pris pas de selfies, il est derrière.
Ah, voilà. Je l'ai vu alors en fait sur les selfies. En tout cas, Quentin, vous êtes vraiment le pire d'entre nous, et ça, je l'avais dit. J'avais dit
ça.
Et c'est vous, bizarrement, c'est vous qu'on envoie à la rencontre des gens.
Parce que je suis capable de parler à tout le monde, d'un barista à un monsieur dans le wagon bar, et vous n'allez pas être déçu parce que aujourd'hui. On parle immigration
on
et, dans la rue, et dans la rue, ça fait réagir forcément.
Aux alentours de 16h30, nous partirons à la découverte des politiques d'immigration les plus farfelues. Vous verrez que dans certains pays, la sélection n'est pas sans rappeler certaines épreuves de Koh-Lanta. Ce sera le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Harold Barbet, qui correspond d'ailleurs physiquement à l'image que Cyril se fait d'un Danois. Après 17h, restez à l'écoute, on zoomera sur l'actu de ce 17 septembre, parce que heureusement, on est plutôt décembre.
Non.
Et on posera cette question qui est toujours vecteur de fun dans une émission de divertissement. Daesh est-il de retour? Mais d'abord, Yvan Gastaud, zoom donc avec vous sur ce fameux modèle danois. Avant de rentrer dans le détail des mesures que pratique ce pays en termes d'immigration, comment le Danemark est devenu un modèle? Comment il a réussi à influencer d'autres pays européens?
Alors c'est vrai qu'on regarde beaucoup du côté du Nord quand on parle de modèle social. Sur la question de l'immigration, on peut tout à fait être dans une réflexion sur l'originalité de ce pays, parce qu'aujourd'hui il polarise l'intérêt de tous ceux qui voudraient restreindre l'immigration. Et c'est vrai que le Danemark est devenu assez porté sur la question déjà il y a bien 20 ans en fait.
Hein. Ah oui.
Oui, en fait on a vu déjà des mesures qui ont été prises. La gauche était déjà présente dans une sorte de gouvernement d'union entre sociaux-démocrates et conservateurs au début des années 2000. Hein, je pense notamment à une figure au Danemark, qui est devenue ensuite secrétaire général de l'OTAN, qui s'appelle Rasmussen, qui était premier ministre. Hein, alors on sait que le Danemark est un royaume. Et bien dans ces années-là, 2001, on a commencé déjà à mettre en place une stratégie dont la gauche était partie prenante de refus d'une chose. En fait, le Danemark, c'était le refus du multiculturel, de vouloir préserver... Il y avait d'ailleurs un concept qu'on a retrouvé en France par ailleurs, c'était les Danois d'abord. Alors le Danemark, c'est finalement deux dimensions. Hein. C'est à la fois un pays qui est urbain avec Copenhague et quelques autres villes, mais c'est aussi un pays très rural. Et c'est de ce côté-là qu'on a développé ce slogan avec des mesures qui ont été largement marquées par... Alors, je vais employer un concept qui va peut-être vous faire bondir, mais
allez-y.
Qu'on appelle le social-nationalisme.
Hein. Alors,
faut pas le mettre à l'envers.
À l'envers, c'est terrible.
Voilà, à l'envers c'est terrible, mais c'est quelque part ça, c'est-à-dire de faire, et je résumerai les choses en un mot qui s'est forgé en 20 ans, c'est de considérer que pour améliorer la situation sociale des populations du populaire au Danemark, eh bien il fallait accentuer le nationalisme et renforcer des mesures de protection du peuple danois. Et il me semble que c'est cette valeur-là qui est venue à la gauche comme une sorte d'évidence.
À la découverte du nationalisme danois de gauche avec vous, juin 1992, Euro de football en Suède. Ah. Devant sa télé à tube cathodique Toshiba, le petit Cyril Lacarrière a les yeux qui brillent. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a encore sniffé du tang. Non, ses yeux brillent devant les prouesses de l'équipe danoise, l'équipe surprise qui, cette année-là, vient à bout de l'Allemagne en finale et soulève le trophée. Cyril, qui est alors gardien de but du FC Ponto Combo, se fait cette promesse à lui-même. Plus tard, je serai le Peter Schmeichel français. Une promesse que, comme toutes les autres, il ne tiendra pas.
Non, mais ce qui est fou dans cet euro, c'est comment nous, on est mauvais.
Ah ben nous,
on faut se souvenir du parcours de qualification qu'on fait, incroyable, il y a Cantona, il y a Papin, et
ensuite,
on est nul.
On s'effondre
nul,
ensuite.
Nul.
On s'effondre, et on a tous soutenu le Danemark.
Michel Platini, non pas moi.
Ah bon
Michel Platini, sélectionneur, on y croit, enfin, on pense qu'on est champion d'Europe. Quoi.
Vous n'avez vraiment pas de cœur.
Il a encore le pire nationaliste.
En plus, le Danemark, ils se font rattraper parce qu'ils n'étaient pas qualifiés.
Mais non, ils sont repêchés, le Danemark. Et ils gagnent l'euro derrière. C'est une belle histoire. Vous n'aimez pas les belles histoires, Cyril.
Vous êtes sur RMC, merci de nous écouter.
Racontez-nous, Cyril, le modèle danois, d'où ça sort?
Imaginez le Danemark, un pays souvent perçu comme une sorte d'incarnation du bonheur, de l'égalité sociale. Le Danemark, c'est le pays du hygge, ce sentiment de bien-être qui parcourt la société. C'est aussi le pays qui incarne l'État-providence, des impôts élevés et un système social qui fait office de modèle. Bref, le rêve scandinave. Mais derrière cette façade attrayante se cache une des politiques d'immigration les plus strictes d'Europe.
Mais comment s'explique ce qui peut paraître à la base comme une contradiction?
Pour comprendre, il faut remonter aux années 2000. L'extrême droite monte dangereusement dans le pays, il est incarné par le Parti populaire danois, et ça fait peur au parti traditionnel car le discours prend dans la population. L'immigration menacerait l'équilibre culturel et financier du pays. Et c'est là que les sociaux-démocrates opèrent un virage idéologique. C'est le début d'une politique de tolérance zéro contre l'immigration non-européenne. Ceux qui incarnent historiquement la solidarité adoptent une ligne dure par pur pragmatisme politique. Ils naît là le modèle danois sur l'immigration. Et il se symbolise par ce qu'on appelle la loi ghetto, une loi avec des mesures radicales. Quelques exemples, le regroupement familial devient quasi impossible ou réduction drastique des prestations sociales pour les étrangers. On demande même aux Danois qui vivent dans ces quartiers d'envoyer leurs enfants à la crèche pour leur assurer une bonne éducation aux valeurs danoises. Il va aussi y avoir une externalisation des demandes d'asile. Alors, d'où ça sort le modèle danois sur l'immigration ? Eh bien, de cette peur de perdre l'État-providence face à la droite dure, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Yvan Gastaud, c'est finalement donc, on l'a dit, un parti de centre-gauche, les sociaux-démocrates, qui a mis en place cette politique de durcissement de l'accueil des immigrés. On peut parler de nationalisme de gauche au Danemark, parce que chez nous, le nationalisme de gauche, c'est un oxymore.
Alors il y a aussi en France un nationalisme de gauche, mais je ne crois pas que ce soit le sujet de l'émission, on pourrait faire des comparaisons, mais en tout cas oui, en tout cas pour le Danemark, il y a un nationalisme de gauche qui s'est affermi au fil du temps. La première ministre actuelle, Mette Frederiksen, est justement une de ces porteuses de valeurs nationalistes. Je crois qu'il y a eu un moment donné qui se situe juste après ce qu'on a appelé en Europe la crise des migrations, ou plutôt la crise de l'accueil des migrations, un durcissement qui s'était déjà enclenché, comme vous venez de le dire, et il me semble effectivement qu'on a parlé de changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, 2019-2020, un peu avant la pandémie, est quelque chose qui a fait du Danemark un pays qui a devancé d'autres stratégies politiques ailleurs en Europe. Et à ce titre-là, le Danemark, petit pays de 6 millions d'habitants, effectivement, est devenu une sorte de modèle avec des mesures assez spectaculaires, on pourrait dire. Spectaculaires. Alors, vous en avez évoqué un certain nombre déjà, mais il me semble qu'il y a un concept qui est très important, c'est l'idée de fragiliser les migrants qui viennent au Danemark.
Les fragiliser.
Notamment, oui, les fragiliser dans leur position. Pendant longtemps, le Danemark, c'est quand même un pays, c'est le premier pays qui a voté la ratification de la Convention de Genève en 1952 sur les réfugiés. Et vous l'avez dit, c'est un pays qui, au départ, était plutôt vu comme un pays tranquille, un pays serein sur ces sujets, voire très tolérant. D'ailleurs, on a souvent classé le Danemark parmi les Danois comme les habitants les plus heureux du monde, parmi les pays scandinaves. Ce qui peut-être est un peu écorné par cette vision très sombre du multiculturel. Le principe, justement, est de considérer que tout migrant qui arrive au Danemark est soumis à un retour potentiel très rapidement. C'est-à-dire que, je donne un exemple très simple, c'est le Danemark est le seul pays qui a renvoyé chez elle des populations syriennes, considérant qu'il y avait des zones sûres, entre guillemets, en Syrie.
D'accord.
Je pense notamment à Damas. Et donc, entre 2019 et 2023, il y a eu 600 environ, Syriens qui sont repartis. Et je crois que c'est un principe qui s'est généralisé. Et là, on est effectivement dans un changement de paradigme, parce que pendant très longtemps, et c'est aussi le cas en France, les réfugiés devaient être stabilisés. Une fois qu'ils avaient passé le seuil de l'acceptation, leur ambition était de rester pour la plupart en France et de vivre en France. C'est très longtemps dans l'histoire, ça s'est développé comme ça, les réfugiés espagnols, d'autres réfugiés. Et là, on entre dans l'idée que tout réfugié doit être amené à un moment donné repartir de chez lui. Le slogan, c'est justement « Vous êtes ici tant que vous avez besoin d'être ici, mais quand vous n'avez plus besoin d'être ici, eh bien, on vous renverra chez vous. »
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Connaissez-vous le modèle danois ? L'historien spécialiste de l'histoire de l'immigration, Yvan Gastaud, est toujours avec nous en duplex des studios de nos confrères d'ICI Azur à Nice. Yvan, on parle de modèle danois sur l'immigration cet après-midi. La principale mesure, ça concerne quand même le regroupement familial. Le modèle danois le limite drastiquement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, le regroupement familial est visé. L'idée que des familles puissent vivre au Danemark durablement est souvent contestée désormais. Il y a pas mal d'éléments sur notamment la limitation des unions mixtes. Il y a notamment une règle qui s'appelle la règle des 24 ans. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est une règle qui refuse aux individus qui sont en dessous de 24 ans de pouvoir faire venir leur conjoint si c'est une union mixte. Par exemple, vous êtes danois, vous voulez faire venir votre conjointe et vous avez moins de 24 ans et cette conjointe vient d'Afrique ou vient d'Asie, eh bien vous n'avez pas le droit,
possible.
Il faut attendre 24 ans.
Il y a une autre mesure assez spectaculaire, si j'ai bien compris, le Danemark interdit aux immigrés vivant dans des zones qualifiées de sociétés parallèles d'obtenir un regroupement familial. C'est quoi ces zones de sociétés parallèles ?
Alors oui, c'est une loi qui a été votée en 2018, la loi anti-ghetto, justement, l'idée de considérer qu'il y aurait des poches de non-droit, des zones où l'État disparaîtrait. Et l'ambition, effectivement, c'est de déconcentrer la présence immigrée dans certains quartiers avec un classement ghetto, qui est au dur. Et donc l'idée est effectivement d'éviter qu'il y ait trop de concentration d'étrangers non occidentaux, c'est le terme qu'emploient les Danois, les étrangers non occidentaux. Donc si vous êtes européen, c'est ça pas de problème. Voilà, et donc ça renvoie à cette notion ancienne qu'on connaît en France de seuil de tolérance. Trop d'étrangers dans un endroit est un problème.
Manon.
Il y a aussi les condamnations au pénal qui repoussent de 6 ans le droit de demander la nationalité danoise. Toute condamnation pénale pour un crime en bande organisée entraîne la déchéance de nationalité. Est-ce qu'on peut dire que le système danois est le plus dur d'Europe ?
Oui, vous avez raison, c'est un système qui s'est durci par la gauche, encore une fois. On pourrait considérer que la gauche dit au monde entier il faut maîtriser et réduire l'immigration avec compassion, mais c'est pas tellement la compassion, puisqu'effectivement, obtenir la nationalité danoise est une sorte de chemin de croix, c'est compliqué. Et il y a eu plusieurs amendements à la loi pour essayer de faire en sorte de resserrer cette acquisition.
Yvan Gaston, il y a aussi les aides sociales qui sont aussi beaucoup plus difficiles à obtenir quand on parle du modèle scandinave, même en soi. En matière de vivre ensemble, de progressisme dans les sociétés, c'est un leurre en fait.
C'est un leurre parce qu'on voit s'effriter le modèle social. Enfin, le modèle social est un modèle qui va se partager entre ceux qui sont danois et qui vont être aidés et ceux qui ne le sont pas et qui vont être repoussés. La question est vraiment une question qui fait dire de manière un peu étrange que pour favoriser le fait que les plus pauvres soient vivent mieux, eh bien, on va essayer de taxer et de faire en sorte que les étrangers soient mis à l'écart.
Et alors moi aussi, je parle souvent du modèle danois en soirée, comme Quentin.
Et, vous le citez sur le congé parental.
Oui, un point qui revient. Non, c'est sur la Norvège, Quentin. Vous mélangez tous les pays scandinaves.
Oui, la
loi sur les bijoux qui vise à saisir les objets de valeur des demandeurs d'asile afin qu'ils payent leur séjour dans les centres d'accueil. Ça va loin, aussi.
Ça, c'est assez exceptionnel. Quand vous parlez de spectaculaire politique d'immigration, là, on y est. La loi dite des bijoux, effectivement, qui fait un peu peur. On se demande de quoi il s'agit. Effectivement, saisir l'argent en liquide ou des valeurs qui appartiennent aux demandeurs d'asile pour favoriser leur retour quand ceux-ci sont déboutés du droit d'asile, et il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel quand ça vient en plus de la gauche, les bijoux.
Mais ça fait bizarre. Ça sera à cause de lui, les amis, si la rumeur se répand selon laquelle les membres de Zoom Zoom Zen sont exécrables et n'hésitent pas à virer des gens de leur place pour privatiser à leur profit des wagons entiers d'une rame SNCF. Tout ça pour picoler comme des étudiants d'école de commerce en week-end de désintégration. C'est moche ce que vous avez fait, Quentin.
Non.
C'est moche, et vous le savez pertinemment.
J'ai fait appliquer le vivre ensemble.
Bon.
La cohabitation d'un wagon.
Pour vous racheter, vous êtes allé à la rencontre des passants pour leur demander s'ils connaissaient justement le modèle danois qui vous intéresse aujourd'hui.
Je suis non loin de la maison de la radio. C'est la dernière semaine avant les vacances, alors je vous avoue que je suis allé au plus près pour parler d'immigration, le 16e arrondissement. Dans le milieu très prisé du micro-trottoir, on appelle ça faire une meurice, mais comme il n'en fait plus, c'est ok. Première rencontre, Laurent.
Très prisé.
Une bonne tête, il a une casquette des Yankees. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du...
Le modèle danois, je serais incapable de vous dire, de déco.
Non.
Pas de déco. Modèle danois de gastronomie, de bouffe.
Pas vraiment. À défaut des bons restos de Copenhague, je lui parle de la politique migratoire du Danemark.
Là, c'est un sujet touchy, qui n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit jusqu'à présent.
Non, un peu.
Oui, moi, je suis pour une restriction, un contrôle de l'immigration. L'immigration, ça peut être le meilleur quand les gens sont bien, ça peut être le pire quand ils se conduisent mal. Et ça me paraît pas du tout hors sujet.
C'est maintenant au tour de Louis. 78 ans, c'est un homme d'expérience qui a beaucoup voyagé avec son chapeau et son manteau bleu. Il me confie qu'il a voyagé et qu'il a fait un peu le tour du monde. Que pense-t-il quand je lui tends notre thème du jour ?
Le modèle danois.
De quoi on parle ?
Ah oui, on nous bassine pour prendre... modèle sur les Danois qui ont mis en place des lois assez restrictives, très restrictives même.
Oui, je trouve, oui.
Alors qu'on en réclame beaucoup comme ça en France, mais je crois qu'on a été trop laxiste, oui, et puis que ça commence à peser trop fort sur...
Sur notre économie, je vous termine la phrase. Donc pour lui, on a un problème d'immigration.
Bien que, par exemple, avant-hier, j'étais dans un café près de la place à côté de Notre-Dame... avec des petits-enfants pour prendre une crêpe. 90% du personnel était manifestement indien, pakistanais, sri-lankais. Là, je sors du bouillon passy. Il y a un très gentil serveur africain s'est occupé de nous avec mon copain. Mais je pense que ce secteur d'activité ne saurait pas s'en tirer sans du personnel issu de l'immigration.
Voilà, c'est le constat de Louis. Je sens qu'il veut revenir sur son histoire personnelle.
J'ai habité 8 ans la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas pourquoi il y a des Ivoiriens qui risquent leur vie pour venir en France. Zut, c'est un pays qui marche très bien, la Côte d'Ivoire.
Bah, quand même.
Mais moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire.
Oui, mais on voit bien qu'Abidjan, il y a les très riches d'un côté. Et puis...
Oui, il y a des bidons. D'ailleurs, j'ai travaillé pour m'occuper des bidonvilles là-bas. Comme
oui, voilà, donc vous avez une capitale riche.
Oui,
et
d'accord, mais il y a des possibilités de promotion dans le pays. Il n'y a pas forcément de venir s'emmerder en France.
Voilà, avant de partir, il veut me confier quelque chose qui lui semble important pour notre sujet.
Moi, bon, il se trouve que j'ai une nièce qui est partie l'année dernière au Danemark parce qu'elle a eu un poste chez Apple. Elle s'occupe de linguistique, enfin du langage numérique, bidule et machin. Son mari qui l'a suivi a eu énormément de mal à trouver un travail, parce qu'on le réserve aux nationaux. Ils ont eu énormément de mal à trouver un logement. Donc le modèle danois, même pour les étrangers européens, il n'est pas cadeau, hein. Il n'est pas cadeau.
Voilà, ça c'est notre sujet du jour. Tout ça pour ça. Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme, Jana, originaire du Liban. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Je fais mes études en droit, là, maintenant. Le modèle danois.
Nous parlons des restrictions qui servent aujourd'hui de modèle pour l'Angleterre, de cet objectif assumé par le pays, rendre le Danemark le moins attractif possible pour celles et ceux qui demandent l'asile, en gros, les décourager d'essayer de venir.
Alors, ils sont géographiquement placés dans un endroit où ils ont un peu le privilège de dire ça, de faire... d'avoir cette politique. Il y a des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France où c'est moins évident quand ils sont à votre porte de les détourner.
En gros, vous dites que c'est un peu facile.
C'est un peu plus facile de dire ça, ouais, de faire ça.
Quel regard elle pose sur nous, sur notre époque ?
Bien sûr, je pense qu'on régresse dans l'Europe en tant qu'être humain. Il y a tellement de désinformation, de fausses informations qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux, à partir des immigrés. Je lisais l'autre jour un article qui y a une corrélation très forte, en fait, entre le racisme et supporting des policies qui sont plus anti-immigrants quand on vit dans des quartiers qui sont moins intégrés. Donc le plus on est exposé à des immigrés, plus on trouve que c'est pas vraiment un problème. Et qu'en fait, l'immigration, c'est essentiel pour toutes les sociétés du monde, d'un monde globalisé. C'est une fausse protection, c'est bête, quoi.
En vrai, le 16e, c'est un peu le Danemark. C'est un territoire confortable, organisé, où l'on peut se permettre de dire on n'est pas franchement contre, mais à condition que ça reste à distance. Ici aussi, l'objectif n'est pas d'exclure frontalement, mais de rester le moins attractif possible. En fait, l'immigration, on adore en parler, débattre, théoriser, tant qu'elle n'a pas à arriver ici.
Merci Quentin. Yvan Gasteau, est-ce que Jana a raison de sous-entendre que pour le Danemark, c'est un peu facile d'imposer un modèle d'immigration vu sa position géographique ?
C'est vrai qu'il y a une dimension géographique en Europe. Les pays ne sont pas les mêmes de par leur position. On le sait, hein, la question se joue de l'immigration se joue à l'échelle de l'Europe. Elle se joue aussi à l'échelle des nations. Et on sait que ce sujet est sensible, hein, entre la dimension supranationale et la nation. Oui, les Danois sont loin des zones d'arrivée et sans doute ils essaient de jouer là-dessus. Moi, ce qui me semble dans ce que vous avez présenté là, des personnes qui ont parlé, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la question de la banalisation du rejet, en quelque sorte. Le rejet n'est plus simplement une valeur d'extrême droite, même de droite, elle est aussi une valeur de gauche. Et quelque part, il y a une stratégie électorale derrière tout ça de la part de la gauche, puisque Mette Frederiksen a réussi à maintenir l'extrême droite à un niveau de 15%. Donc, quelque part, en appliquant les idées d'extrême droite au pouvoir, eh bien, on maintient l'extrême droite à l'extérieur, et quelque part, il y a une sorte de dimension de cuisine politique, on pourrait
dire. Pardon, mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils prennent les idées de l'extrême droite et ils en font quelque chose de plus social, ou c'est juste les idées d'extrême droite appliquées ? Parce qu'à ce moment-là...
C'est un débat, je pense que vous avez raison de poser la question. À mon avis, il y a pas mal d'idées qui vous parliez tout à l'heure, notamment de la déchéance de la nationalité, ouais, par exemple, ouais. Hein, pour parler de ça, ou du retour. Ce sont des idées qui ont été d'abord exprimées par l'extrême droite, mais qui aujourd'hui, au Danemark et même ailleurs, sont reprises par d'autres partis politiques, et c'est un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie question qu'il faut se poser.
Dans les échanges qu'on a eus dans la rue en France, on entend qu'on veut des restrictions, mais on reconnaît que dans certains domaines d'activité, heureusement qu'on a des gens issus de l'immigration. On l'entendait avec Louis, il y a un peu de contradiction en France. Alors, elle est maladroite parfois, mais il y en a.
Oui, il y a des contradictions, c'est certain. La contradiction, elle est dans notre propre ADN, on pourrait dire. Quand je parle d'ADN de la France, ADN de ce que nous sommes chacun, nous sommes à la fois très ouverts aujourd'hui dans nos sociétés européennes, et le Danemark est aussi quelque part un pays relativement ouvert, hein, parce que il n'y a pas que des Danois d'origine, de souche, comme on pourrait dire, entre guillemets, au Danemark. Hein, mais en même temps, il y a cette volonté assez ambiguë, et je dirais même parfois paradoxale, de considérer qu'il faut préserver quelque chose du Danemark, par exemple, d'exiger que les migrants connaissent très bien l'histoire du Danemark, qu'ils parlent la langue danoise et qu'ils soient pratiquement des Danois complètement assimilés. Hein. D'ailleurs, il y a un concept qu'on a oublié complètement, c'est le concept d'intégration. Pendant longtemps, on parlait d'intégration et aujourd'hui, on ne parle plus d'intégration, on parle de retour.
Mais il y a de la contradiction au Danemark. Est-ce que il y a certains membres aussi de la gauche qui ne sont pas d'accord avec cette politique d'immigration, par exemple?
Oui, il y a quelques contestations, mais elles sont totalement minorisées aujourd'hui, me semble-t-il, hein, puisque cette sorte d'alliance qui n'est pas vraiment une, mais en tout cas d'alliance de vue, hein, depuis les années 90, avec la naissance de ce parti d'extrême droite, hein, qui est créé en 95 et qui met en scène effectivement une sorte d'impulsion. Et cette impulsion, les conservateurs l'ont reprise, et en même temps la gauche la reprend aujourd'hui, sans doute pour essayer de coller au mieux à l'opinion publique. Donc, il me semble que quelque part cette gauche elle donne une sorte d'exemplarité entre guillemets encore une fois hein, dans la mesure où elle essaie de répondre aux aspirations du peuple qui disent, et ça c'est une vieille histoire hein, que les ouvriers et le peuple danois essaient de vivre et de survivre justement contre l'immigration.
France Inter, Zoom Zoom Zoom. Mathieu Noël.
Le modèle danois vous a étonné, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pour lutter contre l'immigration, certains pays vont encore plus loin. Je pense notamment à l'Amérique de Donald Trump qui, elle, a mis en place une véritable chasse aux migrants. Nous sommes à San Diego, où l'agent Cyril the Carrier se prépare pour l'opération Ice Ice Baby, décidée par le président Trump. Après avoir visionné l'intégrale de Miami Vice pour apprendre à reconnaître un bouffeur de tacos, non, Cyril est prêt à en découdre. Avec la chianlis latine, il monte dans le pick-up direction Tijuana. Après une demi-heure de route, il arrive à destination et s'accorde une pause fraîcheur au cartel Gracioso, petit estaminet de l'autre côté de la frontière. Hasard ou flair, sans le savoir, il a mis les pieds dans le repère de Luis Fontano, le cousin mexicain de notre réalisateur, surnommé Puzlito, en raison de sa passion pour le découvrir. Coupage méthodique de ses ennemis. 2h17 mescales plus tard, Cyril s'écroule au bar. Sous le regard interloqué du camp Puzlito qui, respectueux de la bravoure du gringo, le ramènera de l'autre côté de la frontière, non sans lui avoir tatoué sur le front « Te amo Ricky Martin » pour immortaliser ce moment de fraternité transfrontalière. Toutes les histoires de chasse aux migrants, hélas, ne finissent pas aussi bien comme nous allons le découvrir dans un Zoom Zoom Tête spécial « Mesures anti-immigration, pas piquer des hannetons ».
Et on commence ah, ça justement... Pas
non, là, ça n'a pas commencé, vous l'aurez noté, il n'y avait pas de question.
Ah, d'accord.
Et attendez, la première question n'arrive pas encore tout de suite. Ah. On commence justement dans ce beau pays qui n'a jamais oublié qu'il a été fondé par des immigrés. Même si son président actuel estime qu'il accueille, je cite, « trop de Somaliens, d'Éthiopiens, enfin des gens de ces pays pourris et pas assez de Norvégiens et de Finlandais ». Bienvenue aux États-Unis. Plus précisément à Ellis Island, au début du XXe siècle, point d'entrée de tous les candidats au rêve américain. Et à l'époque, on tortillait pas du cul pour chier droit, comme disait la grand-mère de Courade. Tout se passait dans le grand hall, où un premier tri était effectué pour savoir si on vous renvoyait ou pas dans votre pays d'origine. Ce fameux test, c'était quoi ? L'épreuve de la poutre ? Il fallait marcher en équilibre sur une poutre sans tomber ? Il fallait jouer deux mesures de l'hymne américain à la flûte ? Ou c'était une visite médicale de 6 secondes ?
C'est !
Ça a commencé là ?
Si, non, bah, Quentin. Une visite médicale de 6 secondes. Je dis c'est parce que ça m'intriguait.
Je dirais ah.
Vous vous rendez compte, Manon, une visite médicale, c'est vraiment pas sérieux.
Bah, il faudrait qu'il fasse un tour sur lui-même. Nu peut-être.
Vu les gens de qui on parle.
C'est une bonne réponse de Manon Marlène. L'épreuve de la flûte n'était qu'optionnelle. Heureusement pour Camille Lorente qui n'était pas prêt d'avoir sa green card. Non, à Ellis Island, les candidats à l'immigration devaient passer une visite médicale de 6 secondes, soit 4 secondes de moins que la visite médicale obligatoire à Radio France. Et en 6 secondes, le médecin évaluait la démarche, la respiration et l'état mental du candidat. Emballé, c'était peu. Wrapped, it was waited. Mais quittons New York pour San Francisco.
C'est une maison bleue.
J'adore.
Là où sur les hauteurs se dresse encore la Maison Bleue, chère à Maxime Le Forestier, même si Pierre Courade, qui pinaille toujours, vous dira qu'elle est plutôt turquoise que bleue, et donc on devrait dire la Maison Verte, puisque d'un point de vue colorimétrique, le turquoise est une nuance de vert. Mon Dieu, qu'il est chiant ce courant.
C'est vrai, ça ?
Car ces considérations n'ont absolument aucun impact sur la question que je vais vous poser. Ah, oui. Nous sommes à San Francisco, au 19e siècle, et à l'époque, une loi surprenante est en vigueur pour décourager une certaine immigration. Cette loi, c'est la Pigtail Ordinance. Elle exigeait que tous les prisonniers masculins se fassent raser le crâne. Vous allez me dire, mais enfin Mathieu, ça c'était pour des raisons d'hygiène. Spoiler alerte, c'était pas pour des raisons d'hygiène, c'était pour des raisons de racisme. Parce que la Pigtail Ordonnance, c'était pour faire chier les Chinois en les obligeant à couper leurs nattes, pour empêcher les Suédois de frimer avec leurs beaux cheveux blonds, ou pour empêcher les prisonniers afro-américains de cacher des lames de rasoir dans leurs cheveux.
C'est. Je pense que c'est.
Il y a plusieurs réponses ou pas?
Il n'y a qu'une seule réponse.
Bah c'est, oui, c'est.
C'est la réponse C, mais peut-être que vous pouvez en tenter une autre au hasard.
Oui, B.
Oh, c'est dommage. C'était la réponse A. L'infamante Pigtail Ordinance était destinée à envoyer un message à la communauté chinoise en Californie. Si vous déconnez, on vous coupera la natte. Natte qui était, vous l'aurez compris, plus qu'une simple coquetterie du type mulet pour les Chinois, mais qui, à travers cette longue natte, exprimait leur allégeance en fait à la dynastie Qing. La coupée était donc considérée à la fois comme une déchéance et une humiliation sociale et spirituelle. Un peu comme si maintenant vous deviez un jour renoncer à votre raie. Mais attention, PNC aux portes. Le vol Zoom Zoom Zen à destination du Gai Savoir repart direction le Canada, car comme disait le poète...
À Montréal.
Oh mon Dieu. On s'y croirait, j'ai l'impression de l'avoir à côté de moi.
C'est actuel, ce bon vieux Robert Charlebois.
J'ai un nez un tout petit peu plus fin.
Pas évident de revenir à Montréal, voire même d'y aller tout court, surtout si vous êtes noir, en 1911. En effet, cette année-là, le gouvernement canadien tente de bloquer l'immigration des personnes noires selon quel argument frappé au coin de la connerie intersidérale. Hors de question que ces sauvages viennent voler le sirop d'érable des honnêtes Canadiens. On leur rend service en les refoulant à la frontière, ils auraient trop froid sous nos latitudes. Ou un Africain ne pourrait jamais choper l'accent québécois, contrairement à Quentin.
Sparkling, Cyril, serre-toi une bûche, tu vas faire capoter ton douce assort.
B, j'ai dit avant.
J'ai dit avant.
Non.
Qui l'a dit d'avant? C'est Manon Mariani qui l'a dit avant, me signale-t-on. Accrochez-vous à votre pancake. En 1911... Accrochez-vous à votre pancake. En 1911, le gouvernement canadien a carrément prétendu que les Noirs ne pourraient tout simplement pas survivre à l'hiver canadien. C'était donc par humanisme qu'on ne pouvait pas les accueillir. Ils auraient gelé sur place comme des Kinder Pingouis. Une loi d'autant plus aberrante que les premiers esclaves africains qui avaient été importés, entre guillemets, au Canada au XVIIe siècle et avaient été suivis ensuite par plusieurs vagues migratoires. Donc on savait déjà en 1911 qu'un Africain n'était pas moins résistant au froid qu'un autre. Mais terminons en Australie, avec le très futé Immigration Restriction Act de 1901, qui avait le mérite de ne pas cacher ses intentions, favoriser l'Australie blanche.
Quelqu'un qui rote derrière.
Alors, c'est Camille Lorente qui fait la flûte.
C'est Camille Lorente qui tente de jouer du didgeridoo. Une politique migratoire claire et nette, mais qui ne plaît pas au gouvernement britannique, qui, Commonwealth oblige, oppose son veto. Que font alors nos amis australiens? Eh bien, aussi rusés qu'un Quentin en période de déclaration de revenus, ils vont contourner l'obstacle en accordant l'autorisation d'entrée sur le territoire australien, même aux non-blancs, mais seulement à la suite d'une épreuve. Un combat contre un Australien de souche, une dictée impossible, ou l'interprétation de l'hymne australien au didgeridoo.
B.
Ah non, peut-être pas. Moi j'ai envie de dire C.
C'est dommage, Quentin, vous aviez la bonne réponse et vous la donnez à Manon. Réponse B, ils sont forts, ces Australiens. Dès qu'un agent de l'immigration voulait refuser l'entrée à un candidat, il lui faisait faire une dictée de 50 mots, mais dans la langue européenne de son choix, comme le gaélique ou le finnois, si bien que le malheureux immigrant n'avait aucune chance de passer la douane. Comme on dit sur W9, il l'avait dans le baba. Défaite de l'humanisme, mais victoire de Manon Mariani.
Merci. Bravo. Merci à tous.
Tout votre public, et le public va être en feu vendredi. Je vous rappelle que vendredi, on est en live.
Oui, venez nous voir. Non,
pas du tout, mais ils vous applaudiront naturellement.
Ah oui, c'est bien.
Surprenant modèle danois. On continue de zoomer sur la politique migratoire du Danemark avec l'historien spécialiste de l'immigration, Yvan Gasteau, toujours avec nous en direct, en duplex, aussi des studios d'ICI Azur à Nice pour décortiquer ce modèle danois qui influence l'Europe. Yvan, on a développé ce que contenait ce modèle danois, plébiscité par la population danoise, on l'aura compris. Mais est-ce qu'il est justifié? Est-ce que l'immigration menaçait véritablement le système social danois?
Alors, je pense que c'est une interprétation de la part des gouvernements et en particulier du gouvernement de gauche, anticipant a priori une opinion publique qui semblerait inquiète. La question du grand remplacement court un peu partout en Europe et je pense que le Danemark n'est pas hermétique à cette idée-là. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que le Danemark dès les années 2000 était... Est-ce que c'est une politique raciste qui est mise en place? On pourrait s'interroger là-dessus, un racisme systémique. N'oubliez pas une chose, un petit point... C'est qu'en 2005, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet qui est partie du Danemark, avec ce quotidien qui s'appelle Jyllands-Posten qui a publié ces caricatures, et ça a engendré une stigmatisation du Danemark dans les pays musulmans, parce que justement, il y a eu cette tension. Oui, je suis pas certain que les Danois soient plus racistes que les autres, mais je pense effectivement que cette dimension du modèle social est venue percuter la question de l'immigration, et c'est pour ça qu'on parle donc de ce socialisme nationaliste. Effectivement, le Danemark est un pays qui apparaît aujourd'hui comme un modèle pour beaucoup qu'il faudrait peut-être appliquer à l'ensemble de l'Europe. C'est un sujet aujourd'hui très sensible.
Hasard du calendrier, justement, c'est le Danemark qui préside en ce moment l'Union européenne.
Absolument.
Elle a réussi à faire signer un accord au début décembre sur l'externalisation des demandes d'asile.
Absolument.
Ce qu'elle appelle les hubs de retour, de quoi s'agit-il ?
Alors les hubs de retour, c'est assez simple à comprendre. C'est une nouvelle manière de penser les camps. Hein. Alors excusez-moi parce que j'emploie le mot camp avec c'est très connoté. Vous imaginez. Hein. Y a différents types de camps. On pourrait parler des camps à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les endroits où on va regrouper les étrangers non européens. Il y a une dimension intérieure à ces camps. Mais puisque vous parlez de hub de retour, c'est simplement de passer contrat avec des pays tiers que l'on va payer pour cela. En gros, c'est 20 000 euros par réfugié. Et l'idée, c'est de déplacer ces réfugiés dans ces pays-là. Je pense au Rwanda, par exemple. On a pensé au Kosovo, on a pensé à l'Ouganda. Et puis l'Italie avait créé un modèle aussi avec l'Albanie. Hein. L'idée, c'est d'envoyer les migrants qu'il faut faire fuir et partir de manière forcée du côté du Danemark pour les amener dans ces pays avant que l'administration ne les ramène dans leur pays d'origine. C'est une sorte de sas, en fait. Hein. Ça fait froid dans le dos parce que ça fabrique une sorte comme ça d'encampement, comme on dit, assez dur.
Dernier point, Yvan, est-ce qu'on sait si cette idée, ce modèle danois de l'immigration, il est en train de faire des émules en Europe ? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels il y a des gens de gauche qui commencent à partager ces idées ?
Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Hein. La France, les LR s'en sont beaucoup inspirés. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, en 2023, on réfléchit à cette idée du modèle danois. Même Olivier Véran est allé à la rencontre des homologues sociodémocrates danois pour réfléchir à ce sujet en 2023. Puis, évidemment, vous l'avez déjà dit, hein, il y a un pays qui est absolument fan, on pourrait dire, du Danemark, c'est l'Angleterre.
Eh oui.
Puisque très récemment, c'était le 9 décembre, une tribune a été publiée dans The Guardian, signée des deux premiers ministres anglais et danois, donc tous les deux de gauche, sur l'idée qu'il faut revoir la Convention européenne des droits de l'homme et envisager une Europe beaucoup plus stricte, en considérant que l'Europe a changé et qu'il faut désormais agir. Et c'est surtout ça, la question de agir, hein, qui est au cœur du sujet aujourd'hui.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une aide française aujourd'hui, l'AME, l'aide médicale de l'État, un dispositif créé en 2000 qui permet à des personnes étrangères sans titre de séjour mais qui sont en France depuis au moins 3 mois d'accéder aux soins, donc aux médecins, à l'hôpital, aux médicaments, aux vaccins, des soins évidemment essentiels qui ne comprennent pas par exemple la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, l'AME concerne plus de 400 000 personnes en France et coûte environ 1 milliard d'euros par an, ce qui équivaut à 0,5% des dépenses de santé en France, autrement dit, une goutte d'eau dans le budget de la Sécu. Et pourtant, l'AME est un vrai sujet de débat instrumentalisé par l'extrême droite depuis des années. Marine Le Pen veut le supprimer et le remplacer par l'aide d'urgence vitale, autrement dit, que les personnes étrangères soient prises en charge par notre corps médical qu'en situation d'extrême urgence. Le Pen souhaite évidemment supprimer l'AME, Éric Zemmour veut aussi le supprimer et le définit comme une filière d'immigration. Même la droite s'y met, Bruno Retailleau a dit plusieurs fois cette année qu'il voulait réformer l'AME. Cette aide devient le symbole d'une France trop généreuse, trop naïve et surtout trop laxiste avec l'immigration clandestine. Sauf que quand on regarde les faits, le récit ne tient pas. Aucune étude sérieuse ne montre que l'AME attire des migrants en France. L'AME ne s'obtient pas comme ça. Elle est difficile à avoir et elle demande des mois de démarches administratives. D'ailleurs, près d'une personne éligible sur deux n'y a même pas accès faute d'informations. Autre idée reçu prôné par l'extrême droite, la fraude. Là encore, les contrôles existent, ils sont nombreux et les abus restent marginaux, bien moins élevés que ce que laissent entendre certains discours politiques. L'AME pose une question essentielle, est-ce qu'on soigne quelqu'un parce qu'il est humain ou seulement parce qu'il a les bons papiers ? Les médecins, eux, sont très clairs, supprimer l'AME coûterait beaucoup plus cher. Des personnes non soignées finissent aux urgences avec des pathologies aggravées, plus longues, plus coûteuses. Et puis l'AME est aussi un enjeu de santé publique. Certains étrangers viennent de pays où des maladies graves ne sont pas soignées à cause du manque de moyens et de la faible dose de vaccins. Ils ont donc des maladies comme la tuberculose, le VIH, les hépatites. Et ça peut amener des pathologies à se propager si elles ne sont pas soignées. Et puis évidemment, il y a le serment d'Hippocrate, celui qui engage les médecins à soigner sans discriminer, sans demander d'où l'on vient ni qui l'on est. En France, la médecine ne devrait pas avoir de frontières, même quand la politique en dresse.
Et toc.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Ils sont deux à pouvoir synthétiser tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. ChatGPT et Pierre Courade. Alors me direz-vous, sachant qu'il nous coûte un salaire, pourquoi avoir pris Courade? Eh bien, tout simplement parce qu'en matière d'humour, il surpasse encore très largement ChatGPT. Dernier exemple en date, dans la conversation WhatsApp de Zoom Zoom Zen, commentant un photomontage de lui-même où il arbore un pull à col roulé, Pierre a écrit « Je suis ras de cou ». Entre parenthèses, tu l'as? Selon notre expert Guigui Pop, il devrait falloir encore 10 ans avant que l'IA n'atteigne un tel niveau. En jeu de mots. Pierre, à vous donc de nous résumer, oui c'est fou, ça m'accueille. Pierre, à vous donc de nous résumer tout ce qu'on s'est dit du modèle danois en une minute chrono.
Et on embrasse Guigui, hein, d'ailleurs, s'embrasser sous le Guigui à Noël, ça porte bonheur. Aujourd'hui, on a parlé du modèle danois, sur l'immigration, modèle entre guillemets, hein, puisqu'il était jusqu'à présent plébiscité par la droite et l'extrême droite européenne, mais il se trouve qu'il est aujourd'hui en train d'essaimer partout en Europe, notamment au Royaume-Uni. L'essence de cette politique migratoire, c'est de restreindre au maximum le regroupement familial, d'allouer des aides aux étrangers au compte-gouttes. Il y a même des quartiers qui sont notés comme ghetto ou ghetto dur, suivant le taux de non-occidentaux, c'est le terme qui y réside. Une loi sur les bijoux permet également aux autorités de saisir les objets de valeur des demandeurs d'asile pour financer leur hébergement ou leur expulsion. Un système porté par les sociaux-démocrates danois, la gauche, effrayée à l'idée de voir l'extrême droite accéder au pouvoir. C'est ce que nous a expliqué notre invité, Yvan Gasto, historien, spécialiste de l'immigration. Pour lui, l'originalité de ce pays scandinave date en fait d'il y a une vingtaine d'années. Aidé par la gauche, déjà, il se résume par un refus du multiculturalisme. C'est les Danois d'abord, un changement de paradigme qui s'explique par une formule. Pour améliorer la situation sociale des classes populaires, il faut renforcer le nationalisme danois, quitte à renvoyer des Syriens chez eux en pleine guerre civile.
Merci beaucoup Pierre pour ce résumé. Le modèle danois, alors ses ancêtres vikings ont fait le chemin inverse et migré en Normandie afin de piller et brûler des villages. Et 1000 ans plus tard, face au legs d'un tel génie, on se dit que ça valait le coup. Voici Harold Barbet.
Demain 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. C'est une journée où, quand tu es au courant qu'elle existe, pendant 24 heures, on te sensibilise au sort des migrants. Et puis bah, dès le 19, c'est reparti, chapeau pointu sur le tutu, car on a un réveillon à préparer quand même. Alors, croyez-le ou non, mais j'ai vérifié, le 18 décembre, c'est également la journée mondiale de la langue arabe. Sachant que d'après le site journeemondiale.com, le 16 et le 19 décembre sont libres, c'est quand même étonnant. Donc il y a des gens qui se sont dit, bon, migrants, langue arabe, hein, hé, on met tout ça le même jour, non? Le Danemark a donc drastiquement durci ses conditions d'immigration. D'autres pays européens semblent vouloir suivre la même voie. La Slovaquie ou la Hongrie ont dit « Nous, on ne prendra plus de migrants ». Mais la vraie question, c'est qui choisit volontairement de migrer en Slovaquie ou en Hongrie? Alors, personne ne va là-bas. Il y a un petit côté rageux, vexé, comme quand tu fais un gâteau pour la kermesse de l'école et que personne n'en prend. « Ah ouais? Ah bah c'est comme ça? Eh bah moi je m'en fous, c'est de la merde votre truc, vous êtes tous des cons !» Oh bah tiens, regarde, en pleine période d'élection, en voilà une proposition dissuasive que pourraient faire les candidats très à droite. Bon, vous avez le choix, les migrants. Ou vous rentrez chez vous, ou c'est direction la Slovaquie. Bah t'inquiète que les mecs, direct, ils se mettent à 5 pour regonfler le zodiaque. Hein. Moi, je comprends qu'on a envie de quitter son pays et de s'offrir une vie meilleure. Tout le monde mérite une seconde chance. La semaine passée, je me suis retrouvé, malgré moi, à une soirée meeting chef d'entreprise au parc exposition de Limoges. Et j'avoue que devant un tel spectacle, j'avais envie de partir très loin. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la sortie de fin d'année. Ça se retrouve entre patrons de TPE divorcés. Cette soirée peut être l'opportunité d'un rebond affectif. Le matin même, en se mettant un petit coup de ménène sous les bras, on se fait une promesse. Ce soir, c'est le grand soir. Je baise. On se fait tout beau, on se rase les balls et on insiste sur le pommeau de douche. On insiste avec le pommeau de douche sur le sif. Un jour, j'ai vu un homme orchestre se suicider lors de la foire aux tripes d'Olivaro. Je pensais pas assister à une soirée plus triste que celle-là. Alors que j'ingurgite des litres d'alcool pour survivre à cet événement, j'observe Jérémy. Il a mis un nœud papillon à velcro avec une paire de bretelles qui match. L'assurance de la séduction. La petite casquette à la Peaky Blinders parce qu'il a un début de calvasse pas assumé. En même temps, s'il l'enlève, il a un crâne dégueulasse qu'il ose pas raser. On dirait une sucette tombée sur un tapis. Chaussures marron pointues et pantalon beige. Paradoxalement, pour un mec qui doute, il faut un maximum de confiance en soi pour porter un pantalon beige en soirée. Jérémy a installé son plus beau kakémono. Il en est persuadé. Cette année, ça va être la cohue devant son stand de pergola en bois de bambou. Et finalement, il y a autant de monde que lors de son pot de départ quand il bossait chez les surgelés Picard. Mince, qu'est-ce que je vais faire de tous ces stylos en bambou avec mon nom, moi, maintenant? Et tandis qu'il vérifie sur son portable, pour la 30e fois, si quelqu'un, n'importe qui, ne lui aurait pas envoyé un message, Carole, du stand de charcuterie bio, vient lui parler, visiblement un peu déchirée. Je peux te prendre un stylo, Jérémy? Bien sûr, tu penses investir dans une pergola? Non, j'ai une crotte de nez que j'arrive pas à sortir. Ah. Quand elle lui parle, elle a des filaments de bave à la commissure des lèvres. Rappelons à Jérémy par la même occasion que cette année encore, il n'aura pas les moyens d'acheter le jeu Spider-Man sur PS5 à son fils pour Noël. Espérant rentrer chez lui à deux, la solitude de Jérémy ne sera accompagnée que du crissement de ses semelles neuves sur le lino du Parc Expo. Aïe, je crois que j'ai une ampoule. Moins 50% ou pas, je peux te dire qu'ils vont m'entendre à la halle aux chaussures. Ainsi ayons une pensée en cette fin d'année pour tous les gens qui souffrent dans le monde et qui ont des vies misérables.
Oui, ayons une pensée pour eux. Merci Harold Barbet et insistez bien sur le CIF comme vous avez dit. On vous retrouve la semaine prochaine dans... Ah mais non, on vous retrouve pas la semaine prochaine dans une zone complètement con ça, cette phrase qui est là bêtement écrite à la fin de votre... Oui, c'est bizarre, ça écrit toujours ça. La semaine prochaine, j'ai tellement envie de vous retrouver mais malheureusement non, parce que là on est tous en vacances. Mais vous êtes en tournée, toutes les dates sur haroldbarbet.com. Merci. Merci beaucoup Yvan Gastaud de nous avoir expliqué le modèle danois. C'était passionnant. Je rappelle votre dernier livre, France, terre d'immigration, 13 siècles de présence du Maghreb, de l'Égypte et de l'Orient, aux éditions Philippe Ray. On remercie également nos confrères d'ici Azure. Quentin, c'est important de les saluer. Merci, oui. À Nice, chez qui vous étiez en duplex. Zoom, zoom, zen.